Chapitre 2. Une demi-heure plus tard, le tableau avait changé. La voiture s'éloignait de l'autre côté de la maison, par la bonne route carrossable où les meubles de Madame Beausire auraient couru moins de danger. Au lieu de 10 minutes, c'en était 20 qu'il fallait pour descendre par cette route au village, mais du moins pouvait-on espérer que le cousin Daniel reviendrait sans eau brisée de son expédition. La cour ressemblait à une salle d'enchères le jour où on vend quelques pauvres ménages endettés. De-ci, de-là, le mobilier, piteux, éparpillé, souhaitait l'ombre, appelait la nuit charitable, qui jetterait un large voile sur ses éraflures, ses taches, ses grotesques petites misères. Par compassion, par délicatesse aussi, Antoine se sentait gêné au milieu de cette exhibition, et il pressait le cousin Ananias de lui aider à faire entrer dans la maison les meubles qu'il ne pouvait porter à lui seul. Mais le cousin Ananias se ménageait, parlait de sa sciatique, de sa maladie de cœur. Les demoiselles Beausire montaient et descendaient l'escalier avec une grande animation et beaucoup de paroles et de rires. Elles transportaient les chaises, les tiroirs, les paniers de vaisselle. Antoine remarqua que la plus jeune, celle qu'on appelait Lulette et qui avait ses yeux transparents comme une source, faisait moins de bruit que les autres. Elle ne disait pas grand-chose et semblait organiser la besogne. Elle savait le contenu des corbeilles et des tiroirs. De temps en temps, elle grondait, mais à demi-voix. Madame Beausire, épanouie, ses bandeaux blonds tout ébouriffés, surgissait parfois à une fenêtre du premier étage et jetait dans la cour un regard ravi. « Nous serons très bien ici » criait-elle. « Nous y serons divinement bien. Quelle vue, quel air! Et de l'autre côté, nous avons un balcon. » Moi qui ai rêvé toute ma vie d'avoir un balcon. Je m'en défie de vos balcons, fit le cousin Ananias de sa petite voix perçante et chagrine. C'est pourri par la pluie, ça branle. Si on met le pied dessus, on passe au travers. Ah, cousin, cousin, fit-elle en agitant un doigt. Vous êtes comme moi, le déménagement vous donne sur les nerfs. Mais demain, vous verrez, nous serons tous gais comme des poissons. Pinçon, maman! Crièrent ses filles en chœur. Pinçon, poisson, tout ce que vous voudrez, pourvu que ça rime. Lulette, je te défends de porter cette caisse. Elle est trop lourde pour toi, tu vas te faire mal. Reposez-vous un peu, mes filles, reposez-vous. Vous savez qu'un proverbe très sage dit « Ne fais jamais aujourd'hui ce que tu peux renvoyer à demain. » Il nous faut pourtant des lits, maman, dit Lulette, levant la tête vers la fenêtre. Des lits? Après que ton père m'eut abandonné, j'ai dormi 4 nuits de suite sur une chaise et jamais je n'ai mieux dormi. Maman! Protesta de nouveau le blond trio de ses filles aînées. Vous avez raison, ce n'est pas là ce que je voulais dire. Ces 4 nuits, je les ai passées dans les larmes les plus amères. Mais enfin, on peut dormir sur une chaise, n'est-ce pas, cousin Ananias? J'aime mieux n'en pas essayer. S'écria-t-il plein d'indignation. Si c'est pour vivre comme des bohémiens que vous nous avez proposé de faire ménage ensemble. Calmez-vous, cousin, dit Lulette de son ton froid, un ton de petite femme d'affaires. Votre lit sera monté et votre chambre en ordre la première de toutes. Si tu m'en réponds, toi, fit-il un peu radouci. Antoine, qui ne disait mot, essayait de se reconnaître parmi les demoiselles Beausire et d'assigner à chacune le prénom qui lui appartenait. Pour 4 jeunes personnes, il semblait que 4 prénoms eussent suffi, mais plus d'une douzaine avaient déjà passé au vol dans la conversation très animée qui s'échangeait de la cour à l'étage. C'était tantôt Bricotte et tantôt Valentine, tantôt Lulette, Juliette ou Tante Miche. Antoine en conclut que chacune des sœurs possédait 2 ou 3 prénoms et qu'ils ne s'y retrouveraient jamais. Le crépuscule s'assombrissait. Sur un fond d'ambre encore liquide, de longs nuages minces, d'un noir violacé comme des torches éteintes, se rallumaient à l'une de leurs extrémités, flambaient un instant d'une flamme pourpre mêlée d'étincelles. « Regardez ces beaux nuages au couchant !» s'écria Madame Beausire, se penchant à la fenêtre. « Regardez ce ciel! Admirez la nature, mes filles !»« Tout à l'heure, maman, quand nous aurons fini !» répondit Juliette, haussant la voix. Où sont les clés de la petite commode? Elle est trop lourde à porter avec tous les tiroirs dedans. Mais pour ôter les tiroirs, il me faut les clés. Les clés, elles sont toutes dans le grand parapluie bleu, debout contre la fontaine, derrière la table à jeu. Tu le vois, ce parapluie? Cherche au fond, tout au fond. J'ai de l'expérience en fait de déménagement, monsieur Jacquier, et j'ai découvert que pour serrer les petits objets qu'on craint de perdre, les clés spécialement, rien ne vaut un parapluie, à condition qu'il soit bien ficelé dans le haut, cela va sans dire. Derrière la table, Lulette, tu n'y arrives pas? Demande au fils du propriétaire qu'il te le passe. Fils du propriétaire, passez-nous donc le parapluie, s'écria la blonde Valentine, soulignant d'un éclat de rire la petite taquinerie amicale de sa mère. Antoine rougit. Il eut une seconde l'envie de tout planter là, puisqu'en récompense de ses services, on se moquait de lui. Mais la crainte de se montrer nigaud et susceptible le retint. Il passa le parapluie. Valentine, la folle, s'en empara, le déficela, l'ouvrit. « C'est l'arche de Noé » cria-t-elle, tirant de ses profondeurs une boîte de dominos, 5 ou 6 oignons, des pelotons de laine de toutes couleurs, et finalement, le trousseau de clés. « Attrape, Mickey, attrape !» L'un après l'autre, elle lançait ses objets à sa sœur qui les attrapait au vol. Antoine s'interrompit dans sa besogne pour contempler ses ébats. « Vous faites bien d'ouvrir les yeux, » dit Juliette, se tournant soudainement vers lui. « Vous ne verrez pas tous les jours une famille comme la nôtre. »« Vous êtes gai, » fit-il gravement. « Très gai, » répondit-elle d'un ton sec. « Maman !» implorait Mickey sous la fenêtre. « Maman, la guitare! Oh, jette-moi donc la guitare !»« Perds-tu l'esprit ?» exclama sa mère qui reparut dans l'embrasure. « Si la guitare se casse, avec quoi ta sœur donnera-t-elle ses leçons ?»« Mais le cousin Ananias désire que je lui joue un petit air. »« Laissez-moi tranquille avec vos instruments, » gronda le cousin. « Quand tout est sans dessus-dessous dans votre ménage, n'as-tu pas honte, Marie ?»« Peut-être bien, mais je m'en cache. » »« Sois sage, Mickey, » dit sa mère. « Sois sérieuse. Regarde la nature. Mes filles, regardez la nature. » 2 minutes de silence. Tout à coup, une joyeuse envolée d'arpèges les fit s'arrêter court et diriger leur regard surpris vers la porte où Madame Beausire se dressait en pied, le ruban bleu de la guitare autour du cou et ses doigts frétillants sur les cordes. « Après tout, Mickey a raison, » s'écria-t-elle. « Un peu de musique nous rafraîchirait. Asseyons-nous. » Le sourire aux lèvres, elle prit place dans le coin du vieux sofa vert éraillé, puis arrangea la guitare sur ses genoux. « Jamais de ma vie je n'ai été si contente, » fit-elle, perlant un accord. « Maman, tu dis cela au moins une fois par semaine, » remarquèrent ses filles. « Non, mais aujourd'hui c'est le superlatif. Pensez que nous allons vivre ici, dans la simplicité des champs. » Moi, d'abord, on ne pourra plus m'arracher à ce balcon. J'y mettrai des plantes grimpantes, de la poésie. Tu n'as pas encore vu le balcon, Lulette? Quelle fille étonnante! Tu ne me ressembles guère. Oh, la nature et la musique! Et puis, nous finirons ici toutes nos vieilles robes. Comme si nous en avions d'autres, soupira Mickey. Cousin Ananias, poursuivit Madame Beausire de sa voix cordiale et maternelle. « Pauvre cousin, vous paraissez éreinté. Venez vous asseoir à côté de moi sur le sofa. C'est gentil d'avoir un sofa dans la cour. Et voilà ce qu'amènent les déménagements, toutes sortes de petits plaisirs imprévus. Nous vous chanterons quelque chose. Moi et mes filles, nous chantons toujours à l'heure du crépuscule. » « C'est une jolie habitude, » dit Antoine presque involontairement. « N'est-ce pas? Nous sommes des cigales, voyez-vous. Le chant, c'est tout ce que nous avons. Ah, si je vous racontais notre histoire !»« Pas aujourd'hui, maman, » dit Juliette. « Chantons plutôt. » »« Ah, tu ne sais pas, ma Juliette, quel souvenir se réveille !» fit l'impressionnable petite femme, tournant soudain à la mélancolie. « Monsieur Jacquier, ne me croyez pas indiscrète, mais permettez-moi une question. »« Maman va vous demander votre prénom, » fit Valentine. » Les 3 sœurs blondes eurent un petit éclat de rire et secouèrent la tête d'un air indulgent aux faiblesses maternelles. mais Lulette resta grave, assise à l'angle du bassin de la fontaine, de la pointe du pied touchant les dalles, l'autre pied se balançant sous sa jupe verte et blanche. Elle regardait sa famille de ses grands yeux sérieux, où il y avait une nuance de tendresse, moitié railleuse, moitié résignée. « Et je lui demanderai son prénom encore. Quel mal y verriez-vous ? » s'écria Madame Beausire, allongeant par-dessus sa tête une petite tape à Mickey, debout derrière elle. « Ces enfants, elles sont peut-être mieux élevées que leur mère, mais à qui elles doivent-elles ? C'est un fait, Monsieur Jacquier, que je meurs d'envie de connaître votre prénom. » « Antoine, madame. »« Antoine, ce que le nom de Francis est rare. Mon fils s'appelait Francis, il était l'aîné. Il aurait maintenant votre âge, j'imagine. Un si bel enfant. Quand je vois un jeune homme intelligent et d'une belle nature, je pense à lui, à mon Francis. Il me semble qu'il est devenu grand dans un pays éloigné. Alors, je lui arrange sa vie. Je me dis qu'il aurait fait ceci ou cela, qu'il serait devenu un bon frère pour ses sœurs. Ah, mon petit Francis !» Ses yeux remplis de larmes se tournaient vers le pauvre vieux cadre terni qu'on avait appuyé dans un coin contre la muraille et dont la glace protégeait une couronne blanche. Tristes fleurs artificielles, vulgaires, flétries, nouées d'un ruban jauni sur lequel des lignes étaient écrites d'une encre effacée. Au milieu de la couronne, une initiale, un F compliqué et fleuronné, que tressaient de pauvres petits cheveux bruns gommés ensemble. Ce tableau, les fleurs de Francis, comme on l'appelait dans la famille, était peut-être, de tous les objets du ménage, celui qui avait subi le moins d'avaries dans de fréquents changements de domicile, car toujours on l'avait transporté tendrement, comme on l'eût fait du petit frère. Mais la mobilité de Madame Beausire ne s'attardait jamais longtemps dans l'ordre des idées tristes. Bientôt, un petit accord frémit de nouveau sur les cordes de la guitare, puis un autre plus gai, puis l'arpège triomphant qui lance la chanson. « Allons, mes filles, le chant du soir, allons !» Cette petite famille était au moins exempte de pause et chantait non pour se faire entendre, mais pour le simple plaisir de chanter, et dans des attitudes aussi peu conventionnelles que possible. Valentine, debout, tenait encore sous son bras le grand parapluie bleu sur le manche duquel ses doigts marquaient la mesure. Mickey et sa sœur Fanchonne, assises sur une caisse, ne dissimulaient point leur lassitude, laissant pendre leurs bras et même allongeant leurs jambes sur les dalles d'une façon que les strictes convenances eussent peut-être interdites. Mais leurs jeunes voix, des sopranos brillants et frais, montaient vaillamment comme un chant d'alouette avec le dernier rayon du soir. Juliette, toujours perchée au bord de la fontaine, était partie en musique dès le premier accord de la guitare. Sa voix, riche et profonde, d'un timbre de cloche, étonna Antoine, qui se retourna involontairement. « Laboureur, voici le soir où finit ta peine. » Poésie simple, de quelques mots à peine rythmés, qui évoquaient le bon travail et sa saine fatigue, et la douce obscurité où se baignent les yeux brûlés par l'ardeur de midi, tranquillité des choses rustiques sous le grand ciel limpide, des bêtes à l'étable, des travailleurs sous le large avant-toit où l'on devise encore, en paroles lentes, avant d'aller se coucher. Mais il y avait aussi, dans la naïveté du chant et la simplicité des chanteuses, un apaisement à d'autres lassitudes. Antoine sentait comme la fraîcheur d'une rosée pénétrer en lui et son fiévreux mécontentement le quittait. La vie se faisait unie, le bonheur devenait possible partout, même dans un jardinet enserré de haies. L'odieux nœud coulant de la destinée se déliait un peu, le meurtrissait moins. Et le repos coulait sur lui avec la mélodie comme une onde large, tranquille. La guitare, de sa petite voix grêle, allait toujours « dzang, zin, zin ». On eût dit qu'elle chantait d'elle-même, car Madame Beausire, les yeux perdus très loin, laissait ses doigts glisser à leur gré sur les cordes. Un charme, l'étrange puissance d'oubli qu'il y a dans la musique, surtout dans la musique simple, oubli du présent, évocation des choses passées et de celles qui ne sont pas encore, agissait sur toutes ces âmes et chacune s'envolait solitaire, hors de la réalité. Juliette, un bras passé autour du goulot de la fontaine pour se soutenir, la tête un peu renversée et ses larges prunelles dilatées étrangement, ne chantait plus qu'à demi-voix, comme pour elle seule. Était-elle triste? Pourquoi n'être pas gaie et folle comme ses sœurs? Antoine se le demandait vaguement. Quand on a vécu pendant des années dans l'ombre morbide d'une expiation, être gaie semble si bon, si miraculeux. Être gaie. C'est très joli, dit le cousin Ananias avec un gênant effort pour se lever. Mais je sens les rhumatismes me courir dans le dos, moi. Ça monte, ça descend. Et puis, cousine, est-ce qu'on soupera aujourd'hui? Mais certainement, s'écria Madame Beausire, qui jeta la guitare sur le sofa, après en avoir passé le ruban par-dessus sa tête. Je vais vous faire une omelette. Assez de musique, mes filles. Revenons à ceux qui se mangent. Vous soupez avec nous, monsieur Antoine. Ne dites pas non, car alors, comment est-ce que je vous paierai de votre peine? Il aurait dû refuser, il le savait bien, mais il accepta. Et tout le temps, trimballant encore avec l'aide débile du cousin Ananias les gros meubles qui ne pouvaient passer la nuit dehors, Antoine Jacquier se répétait « Sont-elles heureuses d'être si gaies ?» Elle fut bien drôle et régalante, l'omelette à laquelle Madame Beausire le convia une demi-heure plus tard. Comme prologue, chacun vint tumultueusement se laver les mains dans le bassin de la fontaine, avec un seul morceau de savon qu'on se lançait d'un bord à l'autre et qui, le plus souvent, tombait au fond de l'eau où il fallait l'aller repêcher en retroussant ses manches. La blonde maman protestait. « mon savon à la violette, vous allez me le fondre entièrement !»« Il n'y a pas de mal, maman, il n'est qu'un peu mouillé !» criait Valentine. Et le savon à la violette de repartir à travers les airs, puis de faire un nouveau plongeon qui éclaboussait tout le monde. Antoine, dont toute la réserve gauche était partie, riait d'aussi bon cœur que les jeunes filles. Il n'aurait jamais cru qu'un petit morceau de savon pût contenir de l'amusement pour 6 personnes. Juliette, la sérieuse, était bien aussi de sa famille tout au fond, famille de linottes qui trouvait l'été beau et ne se souciait d'autre chose. Et si la pauvre Juliette avait dans sa petite âme un coin de fierté qui saignait, un coin de conscience qui sourdement protestait, elle l'oubliait par moments. Elle se laissait redevenir simple linotte. Le jeu du morceau de savon l'amusait autant que ses sœurs, et ses yeux gris n'étaient plus des étangs profonds, un peu mélancoliques, mais des foyers de feux d'artifice d'où partaient des fusées. Après le prologue, l'acte. Ce fut l'omelette, savoureuse, diaprée de fines herbes, mais servie dans la vaisselle la plus incohérente. Les belles assiettes n'étaient pas déballées. On donna la moins écornée au cousin Ananias, avec la seule fourchette en plaqué sur laquelle on eût pu mettre la main. Antoine eut, pour sa part, une fourchette à salade en buis sculpté. Comme éclairage dans cette chambre déjà obscure, il y avait 2 lanternes vénitiennes rouges et blanches, reliques de quelques fêtes nocturnes, qu'Antoine, avant que le couvert fût mis, suspendit lui-même au plafond par un fil. Les bougies, longues de 3 doigts, menaçaient de ne point faire durer l'illumination très longtemps. Et alors ? « Mangeons toujours notre omelette, dit Madame Beausire. Votre maman me prêtera bien 2 bougies, monsieur Antoine, jusqu'à ce que j'aie retrouvé mes lampes. » Maman, dit vivement Juliette, je sais où sont les lampes, moi. Et comme Antoine s'était déjà levé pour courir chez lui, elle se fâcha presque au grand étonnement du jeune homme. C'est que notre tante Miche a des principes, cria étourdiment Valentine. Tais-toi, Bricotte, fit lentement sa sœur, dont la vivacité tomba tout à coup et dont les yeux se firent froids comme l'acier. Si par hasard j'ai des principes, ça ne regarde personne. Elle sortit brusquement et ne rentra qu'au bout d'un quart d'heure, portant une lampe allumée. « Tout se retrouve à la fin, dit-elle. S'il vous manque quelque chose à l'une ou à l'autre, dites-le-moi, je saurai bien mettre la main dessus. » Et, passant derrière sa sœur Bricotte, elle lui tira le bout de l'oreille pour faire la paix. « Quant à moi, fit Madame Beausire, glissant sur l'assiette du cousin Ananias la dernière portion d'omelette, quant à moi, je pars de cette idée, c'est qu'il y a du plaisir à être obligeant. Si j'avais des bougies à prêter, je les prêterais de grand cœur. Il se trouve que j'en manque et que ma voisine en a. C'est la même chose absolument, mais renversée. » Et Madame Beausire tourna vers le jeune homme son sourire enfantin, épanoui. Notre tante Miche, le petit nom d'amitié que je donne à Lulette, monsieur Antoine. Notre tante Miche nous sermonne, moi et ses sœurs, il faut l'entendre. Elle ne croit pas à la bonté des gens. Moi, j'y crois. Ça m'a bien soutenu dans les difficultés de la vie. Ainsi vous, par exemple ? Moi, fit chaleureusement Antoine, j'ai eu le plus grand plaisir du monde à vous rendre un léger service. Tous les remerciements sont de mon côté. Quel joli discours ! S'écria Mickey. Et dire qu'il n'était pas préparé. Qui est-ce qui répond ? Voyons. Mickey était bruyante, pas prodigieusement spirituelle. Bricotte représentait le sans-gêne en personne. Quant à la troisième, Fanchonne, elle ne disait rien, mais s'étouffait de rire tout le temps dans son verre. Cependant, chose étrange, où il y avait comme du mirage, Antoine Jacquier ne les trouvait pas vulgaires. La familiarité de leurs appels, leurs airs bons garçons, leur brusquerie ne l'effarouchaient point, quoiqu'il fût à l'ordinaire un peu dédaigneux dans sa réserve. Il les devinait foncièrement naturelles et franches, et leur petite coquetterie naïvement directe l'amusait, l'intéressait, comme faisant partie de leur jeune gaieté. Elles eussent été insupportables si elles avaient eu le moindre brin d'affectation, si elles avaient cherché une pause. Mais la parfaite simplicité avec laquelle, au contraire, mère et fille laissaient voir le côté râpé de leur existence, avait pour l'âme généreuse d'Antoine quelque chose de touchant. « Un pas sur le seuil, écoutez !» fit Madame Beausire, levant le doigt. « Ah, c'est notre pauvre Daniel qui rentre, et plus d'omelette !»« Il reste 3 œufs, maman !» cria Bricotte. « C'est bon, casse-les vite !» Fanchonne décroche une de ses lanternes et t'en va lestement au jardin cueillir un brin de persil. « Eh bien, pauvre cousin, vous revoilà sains et saufs !»« Les chevaux sont bien arrivés en bas, Daniel !» interrogea son frère d'une voix sévère. « Parfaitement. C'est que je te connais, tu n'as pas de poigne. Tu laisserais un cheval s'abattre, se couronner. » « Ils ne se sont ni abattus ni couronnés, frère Ananias, » fit le bon Daniel, s'asseyant d'un air las. « C'est un miracle, alors. Si tu étais rentré plus tôt, tu nous aurais donné un coup de main pour transporter les meubles dans la maison. Tu te figures, peut-être, qu'ils y sont entrés tout seuls. Demain, j'aurai un tour de rein et ce sera ta faute. » « Voyons, voyons !» fit Madame Beausire d'un ton encourageant. « Vous êtes un peu fatigué, cousin, mais ça passera, car vous dormirez comme un sang de clou. »« De girofles pendant que vous y êtes !» fit le cousin d'un ton ironique. « Il n'y en a point comme vous pour estropier les proverbes. »« Et il n'y en a point comme elle pour faire les omelettes !» dit Daniel, recevant sur son assiette celle qui sortait de la poêle en cet instant. Antoine sentit tout à coup sur lui le regard de Juliette et ce regard lui disait fort distinctement que sa visite s'était assez prolongée. Il se leva aussitôt, fort à contre-cœur, et regrettant toute cette abondance de gaieté qui allait se répandre encore sans qu'il en eût sa part.